10h38, j'ai été comme plusieurs fascinée par la joueuse américaine de soccer Megan Rapinoe, excellente, qui a remporté d'ailleurs, faut le dire, le championnat du monde de soccer avec les Américaines. Elle a pas la langue dans sa poche, hein. Je pense qu'on l'a vu dans différents médias, dans différentes entrevues également, les cheveux mauves. Elle est retrouvée aussi sur les médias sociaux. Je pense qu'on en a beaucoup entendu parler. Prône la diversité sexuelle, s'en prend au président Trump. Je ne répéterai pas ces mots, par contre. Mais il va pas de main morte et surtout, chose extrêmement importante, exige l'égalité salariale pour les femmes dans le sport. Et ça a mis en lumière quand même les très, très grosses inégalités qu'on a encore au moment où on se parle entre les hommes et les femmes dans le sport. Et la question que je me posais, en fait, c'est pourquoi encore aujourd'hui, en 2019, parce qu'on en a fait du chemin quand même dans les dernières années, il ne faut pas se le cacher, mais pourquoi les femmes sont moins payées que les hommes? On va en parler avec Philippe Quentin, qui est journaliste sportif à la presse au 98.5. Salut Philippe!
Salut Catherine.
Et Béatrice Lavigne, qui est coordonnatrice au programme de l'organisme Égal Action. Bonjour Béatrice, merci d'être là.
Bonjour.
Philippe Quentin, juste rappeler le combat qui a débuté quand même pour Megan Rapinoe et ses collègues également du soccer il y a quelques années. Ça fait déjà un moment qu'elle demande justement d'avoir l'égalité salariale. Puis on l'a vu d'ailleurs à leur parade la semaine dernière, des jeunes femmes qui scandaient également le Equal Pay.
Oui, exactement. Ça a été un grand moment de la Coupe du monde quand, dans la finale en France, entre les États-Unis et les Pays-Bas, à la fin du match, les spectateurs se sont mis à scander « Equal pay », rémunération égale. Et je pense que c'est l'enjeu crucial dans le sport international aujourd'hui. Et avec Megan Rapinoe, qui est une porte-parole exceptionnelle, qui est, à mon avis, et de loin l'athlète la plus importante sur la scène mondiale aujourd'hui. Elle va avoir marqué 2019 d'une façon ou de l'autre. Elle est en train de provoquer une prise de conscience extraordinaire. Hier, par exemple, il y a une nouvelle qui est peut-être passée un peu inaperçue, mais un commanditaire du programme de soccer américain, Procter & Gamble, a dit, écoutez, nous, on veut inciter la Fédération de soccer américaine à justement s'en aller dans cette voie-là de la rémunération égale. Et bon, ils ont fait une donation, mais une donation qui est liées à certaines conditions qui vont justement pour atteindre cet objectif-là. Mais quand on regarde le combat, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout ça, la place du sport féminin, c'est un dossier qui, dans la grande histoire, là, si on regarde ça sur des dizaines d'années, c'est un phénomène relativement récent. Ça commence en 1972 et tout commence par une loi aux États-Unis qui a été votée. Ça s'appelle Title IX, la loi 9 ou le titre 9 de la loi sur l'éducation qui a obligé les universités américaines, qui d'une façon ou de l'autre reçoivent tout du financement gouvernemental, à traiter équitablement les athlètes masculins et féminines. Alors, ça a créé ça, un mouvement aux États-Unis, mais ça a été long, le combat a été long. Tu sais, quand on pense à ça dans toutes les institutions internationales, le marathon aux Jeux olympiques pour les femmes, c'est un phénomène encore nouveau. C'est arrivé dans les années 80. Avant, il y avait toutes sortes de raisons pour on dire aux femmes, non, vous ne pouvez pas faire ce sport-là, vous ne pouvez pas faire telle activité. Alors, c'est un développement qui, dans la grande histoire, est relativement récent. Il y a eu des, tu le mentionnais tantôt, il y a eu effectivement des bonds de très importants qui ont été faits, mais on n'en est certainement pas rendu là où on devrait l'être.
Et d'ailleurs, avec Égal Action, Béatrice, vous misez justement sur la place des femmes dans le sport, inciter les jeunes filles également à en faire. Qu'est-ce que vous pensez de l'égalité entre, quand on parle de salaire, parce qu'il y a vraiment des grandes, grandes, grandes différences. Qu'est-ce qu'on vous dit chez Égal Action quand vous dites « oui, mais la femme est capable, la femme, peut-être pas en termes de force physique, mais quand même, au niveau de l'effort, c'est la même chose qu'un homme ».
Oui, exactement. Et vraiment, l'aspect monétaire, c'est vraiment un gros enjeu parce que pour les femmes, en ce moment, il y en a plusieurs qui sont obligées d'avoir un autre emploi. Donc, évidemment qu'on peut pas avoir les mêmes performances sportives si on peut pas faire le sport à temps plein. Si même les joueuses dites professionnelles ou les joueuses olympiennes qui se retrouvent en Coupe du Monde se retrouvent à avoir aussi un autre emploi et qui sont obligées de prendre congé pour aller en Coupe du Monde, c'est évidemment un non-sens. On peut pas s'attendre est-ce que ça se développe à la même rapidité, que ça ait la même visibilité, s'il faut à chaque fois qu'on veut faire une tournée pour promouvoir son équipe, payer de sa poche finalement. Donc, il y a toute cette question-là aussi de promotion et d'engagement. Et pour nous, c'est vraiment ça le problème. C'est pas une question vraiment financière parce que le sport rapporte de l'argent. C'est vraiment une question d'engagement. C'est une volonté des organisateurs de rendre paritaire finalement les bourses, mais c'est aussi rendre paritaire les commandites, la promotion qu'on fait à une équipe, si je donne seulement un tout petit budget à mon équipe pour qu'ils puissent promouvoir ses pratiques et promouvoir ses athlètes, on peut pas après ça demander qu'elles aient les mêmes performances ni encore la même reconnaissance.
Parce que déjà l'égalité est pas là de toute façon en termes d'entraînement. Est-ce que ça doit passer par les commanditaires? Parce que Philippe, tu le mentionnais, Procter & Gamble qui fait une donation, mais en même temps on se dit c'est pas seulement qu'aux commanditaires à faire le travail.
Non. Non, clairement. Puis effectivement, je pense que quand on écoute ce que Megan Rapinoe dit, elle ne résume pas ça uniquement à une question d'argent, mais aussi d'encadrement, de personnel d'encadrement. Est-ce que les athlètes féminines ont droit au même service au niveau de la physiothérapie, de la psychologie sportive, bref, de tout ce qui encadre un athlète d'élite? Est-ce qu'elles ont les mêmes chances? Est-ce qu'elles ont la même qualité, la même ressource qui sont mises à leur disposition? Et la réponse à ça, dans bien des cas, c'est clair que c'est non. Alors elle se bat aussi pour ça, facilité d'entraînement. Bref, ça va au-delà de l'argent. Ça va dans tout ce qui va permettre à une athlète de se développer puis d'atteindre son plein potentiel. Alors ça aussi, c'est un combat. Il y a l'aspect monétaire, on en parle beaucoup, mais comme Béatrice le mentionnait, ça va également un petit peu plus loin que ça. Et donc, pour ça, le combat est important. Mais on le voit que la lutte va être très difficile. Il ne faut pas se le cacher. Dans certains sports, il y a déjà une certaine équité. Là, je pense au tennis, par exemple. Les 4 tournois majeurs, ce sont les mêmes bourses qui sont versées à tous les athlètes, peu importe où ils se rendent dans le tournoi. Par exemple, en fin de semaine, Simona Halep, qui a gagné Wimbledon, et Novak Djokovic, qui a gagné Wimbledon le lendemain du côté masculin, ben, ils ont touché exactement la même bourse. Mais là encore, c'est un phénomène qui est assez récent. Ça fait 6 ou 7 ans que c'est comme ça. Et ce ne sont pas tous les tournois dans le tennis qui sont comme ça. Les majeurs, oui, mais dans les autres tournois, ce n'est pas nécessairement le cas. Alors donc, il faut continuer à travailler ça, mais on voit les problèmes aussi. C'est que dans le sport, il y a le sport. Il faut, à mon avis, distinguer le sport individuel et le sport collectif. Le sport collectif, ça repose beaucoup sur la compétition à l'intérieur d'une ligue et est-ce que les gens vont s'y intéresser. Et on a eu de grands espoirs, notamment après les Jeux olympiques de 2010, pour le hockey féminin, les Jeux olympiques de 2014, où la finale, c'était un morceau d'anthologie.
On était devant notre télé à regarder, on aimait les joueuses, puis on a eu beaucoup d'entrevues, mais après, c'est ça.
Moi, à chaque fois, je pensais, notamment après 2014, j'ai pensé que là, il y avait vraiment un élan qui venait d'être donné au sport féminin, au hockey féminin. Et puis, ça s'est pas traduit. Il y a eu un petit engouement, mais ça s'est pas matérialisé. Puis là, on l'a vu, la Ligue canadienne de hockey a dû cesser ses activités. Puis là, on cherche à réorganiser le hockey de haut niveau chez les femmes partout en Amérique. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est pas encore réglé. Puis c'est drôle parce que je lisais la semaine dernière, Catherine, en Angleterre, c'est exactement le même problème avec le soccer. Alors là, la Coupe du monde de soccer féminin qui vient de se terminer, ça a été un gros succès également en Angleterre en termes de cote d'écoute. L'équipe anglaise a très bien fait. Elle a perdu en demi-finale contre les Américaines. La cote d'écoute a été géniale. 11 millions de personnes ont écouté ça. Bref, il y a eu un engouement autour de cette équipe-là. Mais on dit qu'au niveau de la Ligue qui existe en Angleterre aujourd'hui pour les femmes, elle joue sur des terrains de deuxième niveau et puis il n'y a pas 1000 personnes qui vont voir les matchs. Alors, dans ce cas-là, c'est très difficile de générer des revenus de télévision qui sont suffisants pour augmenter les salaires. Parce que c'est quoi le moteur du sport professionnel au plan financier? C'est d'abord et avant tout les revenus de télé.
Oui, mais c'est à la Ligue aussi peut-être à faire davantage d'efforts pour offrir justement de bons terrains, des équipements adéquats, une équipe de coach également, et de s'organiser pour peut-être médiatiser davantage, Béatrice.
Oui, c'est sûr. Si on regarde sur le soccer, justement, là, en France, c'est probablement la Ligue qui a les meilleurs salaires en ce moment. Ça n'a rien à voir avec les salaires du côté masculin, malheureusement. Mais les équipes comme à Lyon, c'est probablement une des équipes qui donne justement le plus d'investissement dans son équipe féminine. Ils ont les mêmes terrains que l'équipe masculine. Ils ont le même logo. Ça aussi, c'est très important. Ça donne plus facilement d'attirer les spectateurs parce que c'est un logo qu'on connaît. Donc, c'est finalement le même propriétaire qui ont les clubs féminins et les clubs masculins. Et on le voit, c'est l'équipe qui gagne. C'est l'équipe qui gagne toujours. Ouais. Donc, il y avait plusieurs Françaises qui étaient dans l'équipe nationale. Donc, on le voit que quand une équipe investit, même si malheureusement, ce n'est pas encore assez, à mon avis, parce que ça n'a justement absolument rien à voir. C'est même pas le tiers, je pense, du budget, là, mais quand même, on voit que quand on investit, on rapporte. Donc, c'est ça aussi le problème. C'est qu'en ce moment, on essaye d'attirer l'attention sans donner d'argent et on met ça finalement sur le dos des femmes qui doivent être performantes, qui doivent être exceptionnelles, mais on ne leur donne pas les moyens d'y arriver. Donc, finalement, pour moi, c'est un peu, il faudrait renverser et au contraire dire créons de l'engouement, de l'investissement, et ensuite, on va avoir de l'argent qui va nous revenir.
Effectivement, puis on va continuer la discussion également. Puis, il faut juste se rappeler, c'est quand une Canadienne, une Québécoise remporte, que la médaille est une médaille d'or, ben ça a la même valeur pour une équipe, pour un pays, que celle d'un homme. Fait que pourquoi elle devrait être payée moins cher? C'est aussi la question qu'on se pose. 10h48, on s'arrête quelques instants. 514-790-9850 pour participer à la discussion. Pourquoi les femmes sont moins payées que les hommes dans le sport professionnel surtout? Parce que le sport amateur, évidemment, c'est quand même différent. Il y a toutes des bourses qui sont remises également aux athlètes pour se rendre aux Olympiques. Il y a des coachs, il y a des ligues, des formations également qui sont avec eux. Il n'y a pas de différence, Béatrice, nécessairement entre les hommes et les femmes quand on parle nécessairement des médailles ou des bourses reliées au sport olympique?
Ben c'est sûr, ça va dépendre de chaque pays, ça va dépendre peut-être même de chaque sport, mais c'est moins marqué parce que de toute façon, les salaires sont moins grands. Donc, c'est sûr que l'écart est moins grand. Donc, on est très loin des salaires de Lionel Messi. Donc, l'écart, même quand il y en a, c'est moins choquant parce que ça ne va pas être des millions et des millions de différences. Mais ça va être quand même différent. Ça va être difficile pour les femmes d'aller chercher des commandites parce qu'elles vont avoir aussi beaucoup moins de couverture médiatique, même au niveau du sport amateur. Au Canada, c'est seulement 4 % de la couverture médiatique du sport qui est consacrée au sport féminin. Donc, il y a très peu de place, ce qui fait en sorte que pour un commanditaire, c'est beaucoup plus difficile de donner de l'argent. J'ai lu dernièrement que c'était seulement 0,4% du montant global des commandites qui étaient données aux femmes. Donc, c'est vraiment minime. Il me semble que c'était comme 425 millions sur 100 milliards. Donc, c'est tellement peu que ça devient vraiment difficile, peu importe c'est qui, ça devient extrêmement difficile pour une femme d'avoir des commandites et ça devient que les commanditaires voient ça comme un enjeu et comme difficile.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Philippe Quentin? Parce que, évidemment, on dit qu'il y a moins de gens dans l'assistance. Ça a été le cas pour le hockey féminin, c'est le cas pour les différentes compétitions féminines. Et en même temps, on ne peut pas obliger les gens à regarder du sport féminin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper,
justement? À mon avis, il y a deux solutions. D'abord, ça prend des gestes gouvernementaux qui sont clairs. Dans le sport olympique, oui, les primes qui sont remises aux médaillés, c'est paritaire. Alors déjà, ces primes-là sont financées en grande partie par le gouvernement fédéral. C'est la même chose dans les programmes de sport d'élite au Québec. Tout est paritaire. Alors de ce côté là, ça va bien, mais il y a des pays où c'est pas nécessairement la même chose. Alors, il y a un travail à faire, mais moi, je pense que fondamentalement, les ligues professionnelles masculines qui nagent dans l'argent ont un rôle à jouer. Puis on l'a vu aux États-Unis avec le basketball. L'Association nationale de basketball parraine la WNBA, l'Association nationale de basketball féminine, et c'est un circuit qui va bien. Et dans le hockey, ici en Amérique du Nord, on a vu des équipes comme le Canadien, par exemple, ici à Montréal, qui a parrainé l'équipe des Canadiennes, mais on n'a pas vu encore un geste très substantiel de la Ligue nationale de hockey qui a dit, écoutez, le hockey féminin a des problèmes, là, on le voit avec tout ce qui s'est produit dans les dernières semaines. Nous, on va aider, on va vraiment se lancer pour développer le hockey féminin. Et ils ne le font pas. Puis au soccer, je pense aussi que ça devrait se faire. Tantôt, Béatrice parlait de la France et de Lyon, par exemple. Oui, c'est un bon exemple, mais c'est pas nécessairement comme ça en Angleterre, puis c'est pas comme ça encore aux États-Unis et au Canada. Alors, donc, il y a un rôle à jouer pour les ligues professionnelles, puis je pense qu'elles ont tout avantage à le faire, parce que plus un sport est populaire, plus il va y avoir de jeunes qui vont jouer, plus il va y avoir de monde dans les gradins, plus de gens vont le regarder, tu sais, c'est gagnant-gagnant. Alors, pour moi, essentiellement, quand on regarde les solutions, il y a certainement une intervention gouvernementale avec des objectifs clairs qui doivent être donnés, et deuxièmement, une implication beaucoup plus soutenue des ligues professionnelles masculines.
En terminant, Béatrice Lavigne.
Oui, je suis tout à fait d'accord que c'est vraiment une responsabilité des ligues, c'est une responsabilité des gouvernements d'investir, parce que l'argent, justement, comme je disais tout à l'heure, il y en a. On génère des milliards de dollars en sport et c'est finalement un manque d'engagement et de volonté seulement qui manque actuellement pour le développement du volet féminin.
Et au public de s'y intéresser peut-être davantage aussi parce qu'il y a de très, 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 très grandes sportives et Megan Rapinoe, tant mieux si elle a été capable justement d'amener ce débat dans l'actualité. Philippe Quentin, c'est toujours un plaisir, journaliste sportif de la presse et le 98.5 également. On peut t'écouter à tout moment ici dans notre programmation. Merci. Et Béatrice Lavigne, coordonnatrice au programme de l'organisme Égal Action. Merci, Béatrice, d'avoir été avec nous. Dan Migret est avec nous. Salut.
Allô, comment tu vas?
Ça va très bien. Passez une belle fin de semaine.
Oh, fantastique. J'ai fait un show cancellé par la pluie.
Ah, oh, oui, c'est vrai.
C'est rare, ça m'arrive. Je suis assez chanceux, moi, d'habitude. Ouais, puis là, ça a trop tombé. C'est parce que c'est dangereux. Il y a beaucoup d'électricité sur le stage.
Ben, c'est ce que les gens souvent comprennent pas.
Ceux qui organisent le show, ben, eux autres, leurs assurances ne veulent pas qu'on marche dans l'eau avec l'électricité. Puis quelque part, je suis un petit peu d'accord, mais c'est décevant,
écoute,
pareil.
Ouais, je peux comprendre pour le public. Puis pour toi aussi, qui étais
prêt
sur scène.
Oui, nous autres, on est rendus là. Tu te fais les tests de son. Ben, on a envie, alors bon.
Et on va parler de la charte des voyageurs. Et là, j'ai envie de dire, enfin, il y a peut-être un recours pour
enfin,
le public.
Il y a un recours. Il y a des gains absolument indiscutables, selon Volant Retard, qui surveille ça. Mais il y a un flou sur les délais d'application qui s'allongent. Mmh. Ça devait être mis en place le 1er juillet. Mais avec tout ça va être le 15 décembre prochain, finalement. Là. Je vais vous faire une histoire courte. C'est certain aussi qu'il y a dans la loi prévoit tellement d'exceptions puis de limitations d'application que ça va créer un flou juridique.
Fait qu'on va demander des choses finalement puis ça marchera pas.
Fait que les compagnies vont en profiter. Ils ont fait un tel lobby pour pas que ça existe. Ils ont menacé publiquement que ça montrait les frais de tout le monde puis sont partis en guerre. Mais c'est bien beau partir en guerre. Il faut avoir une raison là. Mm-hmm. Là, ils refusent de prendre leurs responsabilités. C'est ça qu'on voit. Il n'y a rien de particulier là-dedans. C'est juste ça.
Ça va être à suivre. Merci beaucoup, Dan. On t'écoute, bien sûr, à midi. À 10h57, nous, on s'arrête quelques instants pour les informations de Cogeco. Et au retour, notre expert répond à vos questions.